Et bonjour à tous. Il a réalisé un essai clinique sauvage auprès de 400 personnes en affirmant pouvoir soigner les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Il a finalement été mis en examen et on lui a interdit de poursuivre ses expériences. Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour.
Cet homme, il s'appelle Jean-Bernard Fourtillant et c'est son histoire, donc assez incroyable, que vous allez nous raconter aujourd'hui.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Finalement, il n'est pas dangereux ce virus. Il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, parce qu'on a foutu des saloperies, mais c'est pas dangereux.
Par qui a été fabriqué ?
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur.
Voilà, celui que vous venez d'entendre dans cet extrait du documentaire Hold Up, c'est Jean-Bernard Fourtillant. Ce sont ses propos d'ailleurs qui l'ont mis sous le feu des projecteurs et qui lui ont valu ensuite une plainte pour diffamation de l'Institut Pasteur. Mais cet homme s'est aussi fait connaître dans le cadre d'une autre affaire dont vous allez nous parler, Laetitia Chérel. Alors pour commencer, expliquez-nous tout simplement, c'est qui le professeur Fourtillant ?
C'est un homme de 77 ans, marié et un fervent catholique. Il est ingénieur chimiste de formation, pharmacien des hôpitaux, et il a donné des cours pendant 40 ans à la faculté de pharmacie et de médecine de Poitiers. C'est un homme respecté, comme nous le raconte un de ses anciens collaborateurs, qui a tenu à rester anonyme et dont nous avons fait lire les propos.
C'était un professeur reconnu, il avait du charisme, il était assez pédagogue et connaissait bien la pharmacologie, il était très doué. Il a créé de nombreuses sociétés qui faisaient des études de pharmacocinétique. C'est ce qui permet de connaître le devenir des médicaments dans l'organisme et d'établir la posologie des médicaments. Il a été l'un des premiers à sous-traiter des études cliniques sur des patients pour des laboratoires. Il a travaillé avec tous les laboratoires du monde.
Ouais, donc c'est un scientifique, mais c'est surtout un scientifique qui pense avoir fait une découverte révolutionnaire.
Oui, en 1994, dans son propre laboratoire de recherche, le professeur Fourtillant dit avoir découvert la vraie molécule du sommeil. Elle pourrait, selon lui, guérir les troubles du sommeil et deux maladies incurables, les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Cette molécule, il l'appelle la valantonine, comme l'explique son ancien avocat, maître Marc Fribourg.
Il la nomme la valantonine parce que sa petite fille qui venait de naître s'appelait Valentine. Et il subodore que cette valantonine peut être l'hormone du sommeil. Il entreprend des recherches sur les animaux pour savoir si son idée est véridique. Et ses études démontrent que la valantonine fait dormir. À partir de là, il essaie de contacter des laboratoires pour ultérieurement trouver la voie par laquelle elle pourrait être administrée. Et on lui dit, à l'époque, je crois que c'est en 2000, que sa découverte fera l'objet d'un développement plus tardif.
Oui, ce qui est une façon élégante, disons, de lui signifier qu'on n'est pas intéressé.
Oui, et d'ailleurs, après cet échec, il tombe dans la dépression dont il sortira en 2015, après avoir reçu, explique-t-il, une révélation divine. Révélation qui lui donne le courage de relancer ses recherches.
Et comment il s'y prend alors ?
Eh bien, il s'appuie notamment sur le professeur Henri Joyeux, connu pour ses positions contre les vaccins. Il a travaillé avec lui 40 ans plus tôt et il le recontacte pour lui demander de l'aider à faire connaître sa découverte. Le professeur Joyeux accepte et dans une vidéo qui aura beaucoup de succès, il échange pendant une heure avec le professeur Fourtillant et écoutez-le, Henri Joyeux ne cache pas son enthousiasme, comme dans l'extrait que vous allez entendre.
C'est une véritable bombe scientifique que cette découverte.
Eh bien, effectivement, ce système permet d'expliquer les mécanismes des affections neurologiques et elle débouche tout naturellement sur le traitement de ces affections.
Et un traitement qui consiste en quoi ?
Alors, il consiste à administrer de la valantonine via un patch que le professeur Fourtillant fait fabriquer par un laboratoire allemand. Il organise ensuite des essais sur des patients et les premiers ont lieu en septembre 2018 et c'est lui-même qui envoie les convocations dans ce mail que nous avons fait lire.
Chers amis, nous vous attendons le 5 septembre à l'abbaye Sainte-Croix à partir de 18h. Je passerai la nuit à l'abbaye et assisterai au prélèvement que nous effectuerons sur tous les participants entre 4h30 et 5h30 du matin, le 6 septembre. Le vendredi 6 septembre au soir, vous commencerez votre traitement en vous appliquant un patch au coucher. au matin du 7. On effectuera sur chacun de vous, avant 6h du matin et avant l'enlèvement de votre patch, un prélèvement de sang pour doser les 3 hormones. Ne soyez pas inquiets, vous n'aurez pas besoin de vous munir d'un réveil matin, nous vous réveillerons au moment des prélèvements.
Et ça marche, enfin, je veux dire, les malades répondent présents.
Alors oui, hein, ils seront 400 au total. Ce sont des personnes âgées pour la plupart, des personnes atteintes des maladies d'Alzheimer, de Parkinson et aussi de troubles du sommeil. Et elles attendent beaucoup de ces essais, comme en témoigne la femme de l'un des patients.
Il y avait des gens de tous les coins de France. Moi, je connais des gens de Strasbourg, de Paris, du Sud-Ouest. Les gens étaient accompagnés. C'est des gens quand même handicapés qui ne conduisaient pas, pour la plupart. Les repas étaient confectionnés par les sœurs. C'était très simple. Monsieur Fourtillon participait, était là présent au repas et les gens lui posaient des questions auxquelles il répondait.
Et il n'est pas le seul professeur d'ailleurs à assister à ces essais.
Non, il y a aussi le professeur Joyeux et sa femme qui testent eux-mêmes le patch. Et ça, c'est un gage de sérieux pour les participants. C'est ce que m'a raconté la femme d'un patient dont nous avons fait lire les propos.
Le professeur Joyeux est resté 2 jours avec eux. Et ça a beaucoup donné confiance à mon mari parce qu'il l'aime beaucoup. Il est rentré et il m'a dit « Tu vois, c'est du sérieux. Ce n'est pas un professeur qui s'engage avec des charlatans. S'il est avec lui, c'est que le professeur Fourtillon a une carrure. »
Oui, une carrure qui rassure donc.
Oui, incontestablement. Mais en revanche, pour ce qui est d'encadrer cet essai, ça se résume apparemment à la présence de 2 professionnels de santé.
Il y avait eu Monsieur Fourtillon avec une infirmière et plus son infirmière qui est venue avec son mari, qui était volontaire sûrement. Elle faisait la prise de sang et lui notait les indications pour repérer qui est qui et c'était fait sérieusement quoi.
Ouais, c'était fait sérieusement. Tout ça paraît quand même assez douteux pour un essai clinique, non ?
Ben oui, parce qu'en fait, aucune des procédures réglementaires n'a été respectée. Pas de demande d'autorisation à l'agence du médicament, pas de personnel spécifiquement formé, sans parler des patients qui n'ont pas signé de feuille de consentement, rien. C'est du bricolage, comme me l'a dit un membre de la direction du CHU de Poitiers.
Et il l'a financé comment ce bricolage, Jean-Bernard Fourtillon ?
Eh bien, il a demandé à ses patients de payer de leur poche en fonction de leurs moyens. Parmi ses patients, Patrick Lecointre, un vice-amiral de la marine, aujourd'hui à la retraite. Il est atteint de la maladie de Parkinson.
Le professeur Fourtillon voulait que ça reste bénévole. On finançait les essais et chacun donnait ce qu'il pouvait. Au premier test en juillet 2018, Monsieur Fourtillon avait dit que les essais coûteraient 1 000 euros par personne. Ça a été relativement facile pour tout le monde. Il y a des gens qui donnaient 100 euros, il y a des gens qui donnaient plus pour compenser. C'était une mise en commun.
Et une mise en commun qui a rapporté combien au final ?
Alors ça, impossible de le savoir. Un patient m'a dit avoir donné 15 000 euros, un couple 13 000 euros. J'ai une patiente qui, elle, n'a pas versé un centime, mais d'autres ont mis l'équivalent d'un mois de leur pension de retraite. Et c'est le cas de Josiane, dont le mari avait la maladie de Parkinson.
J'ai reçu un mail me demandant si on voulait bien participer aux essais. Bon, c'était déductible des impôts, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné 600 euros au départ. Et puis, quand on est allé à Poitiers, ils ont fait comprendre qu'il avait encore besoin d'argent pour pouvoir continuer la recherche. Et donc, j'ai redonné 400 euros.
Oui, 400 qui viennent s'ajouter à 600 euros. Et malgré tout, ça n'a pas suffi.
Non, parce que la fabrication des patchs est très coûteuse et les dons des patients ne couvrent pas tous les frais. Commence alors une course contre la montre pour trouver des financements, comme nous le raconte encore le vice-amiral Lecointre.
Les patchs coûtaient très cher parce que M. Fourtillon était pressé d'avoir des résultats. Il a pris un laboratoire qui était très bien, un laboratoire allemand, mais qui fabriquait des patchs à la main, à l'unité. Ça coûtait une fortune. Je l'ai dit d'ailleurs, on ne peut pas continuer comme ça. On arrivait dans une impasse financière.
Oui, dans une impasse qui va avoir des conséquences.
Oui, il n'y a pas assez d'argent pour produire des patchs pour tout le monde. Du coup, seuls une 40aine de patients en reçoivent plus ou moins régulièrement. et on en arrive parfois à une situation totalement ubuesque, comme celle que nous décrit la femme d'un de ses patients. Elle a voulu rester anonyme et ses propos ont été lus.
Mon mari a commencé à recevoir des patchs pendant 4 ou 5 mois. Et puis après, il y a eu des ruptures d'approvisionnement. Le professeur Fourtian lui disait de couper le patch en 2, puis après en 4, puis en 8. Mon mari se retrouvait avec des tout petits bouts parce que le patch faisait 5 cm. Il disait à mon mari que les doses dépendaient des individus. Moi, je trouvais que ça ne servait plus à rien, mais le professeur Fourtian, lui, disait qu'il y en aurait la semaine suivante. Et la semaine d'après, il n'y en avait pas. Il fallait attendre 5 jours, puis un mois. Et ça a duré un an.
Et pendant tout ce temps-là, eh bien, on continue à faire appel aux dons.
Oui, à partir de début 2019, Jean-Bernard Fourtian écrit quasiment chaque mois aux patients pour leur demander de financer ses essais. Dans un mail du mois de juin que nous avons fait lire, il dit avoir besoin de 800 000 euros et il explique pourquoi.
Chers amis, depuis le début de l'essai, la société GenPlus, notre fabricant allemand de patchs, nous a livré au compte-gouttes des patchs fabriqués manuellement et facturés au prix unitaire de 30 euros. Nous n'avons pu donner des doses efficaces qu'à 24 participants, les plus sévèrement atteints, parkinsoniens pour la plupart. Malheureusement, nous avons dû interrompre les traitements à plusieurs reprises, faute d'avoir suffisamment de patchs.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Alors, on va maintenant s'intéresser à la dimension religieuse de l'expérience du professeur Fourtian, parce qu'elle compte aussi dans cette affaire. Hein. On a déjà vu que les essais ont lieu dans une abbaye, Laetitia Chirel, mais c'est pas par hasard.
Oui, parce que Jean-Bernard Fourtian ne cache pas son mysticisme. Il affirme que sa découverte de la Valentonine lui a été inspirée par la sœur Josefa Menendez.
Et c'est qui la sœur Josefa Menendez ?
C'est une religieuse espagnole morte en 1923 à Poitiers qui dit avoir été en contact direct avec Dieu. Et le professeur Fourtian raconte sur son site internet avoir été inspiré par elle.
J'ai senti qu'un message d'amour et de miséricorde m'était adressé par sœur Josefa, la messagère du Seigneur. Sans l'intervention dans ma vie de cette messagère d'amour et de miséricorde de notre Seigneur, ma découverte n'aurait jamais abouti. C'est la raison pour laquelle, avec mon épouse Marianne, nous avons créé le fonds de dotation sœur Josefa. Les dons collectés seront reversés pour soutenir la recherche médicale et scientifique.
Et ce fonds a la particularité d'être géré à la fois par des personnalités comme un avocat et des médecins, mais aussi par trois sœurs de la congrégation du Sacré-Cœur, dont la sœur Josefa était issue.
Ouais, sauf que cette intrusion de la sœur Josefa dans un essai médical douteux, elle va faire grincer quelques dents dans la congrégation.
Oui, ce mélange des genres déplaît fortement à Marie-Claire Pasteur, une ancienne élève d'une école de la congrégation.
J'ai été alertée par cette présence de Josefa au milieu d'un mouvement qui était fait pour récolter des fonds. Il y avait des religieuses du Sacré-Cœur de Poitiers. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? C'est-à-dire, on n'est pas là pour ramasser de l'argent pour des causes soi-disant culturelles, scientifiques. Ça n'est pas la vocation des religieuses du Sacré-Cœur.
Et elle va aller expliquer ça à la responsable de sa congrégation.
Oui, cette responsable, qu'on appelle la provinciale, Claire Castin, écrit alors au professeur Fourtian pour qu'il cesse d'utiliser le nom de cette sœur à des fins privées. Mais il n'en a que faire, comme elle nous le raconte.
Il m'a dit que je n'avais pas à intervenir, malgré le fait que je lui ai indiqué que j'avais moi en référé à mon supérieur général à Rome, en disant qu'on n'utilisait pas le nom d'une sœur vivante ou morte comme ça. Et ce monsieur m'a dit qu'il continuerait à utiliser ce nom-là, ce qui m'a amené à solliciter notre avocat pour à la fois démarcher auprès du procureur de la République et du préfet pour alerter sur l'usurpation d'une certaine manière du nom d'une personne privée, qui fasse faire le lien à des petites gens qui vont donner 20 euros pensant qu'ils vont promouvoir le message de Josepha alors qu'en fait ils vont participer à l'expérimentation scientifique de ce monsieur, pour moi c'est de l'abus de faiblesse, c'est irrecevable.
Et ça ira jusqu'où cette histoire ?
Eh bien le parquet classera sans suite et l'affaire n'ira pas plus loin.
Bien, alors voyons maintenant quelles conséquences concrètes ont eu ces essais thérapeutiques sur la santé des gens, Laetitia Chérel. Qu'en disent les patients pour commencer ?
Sur la vingtaine que j'ai contactée, la moitié disent que le patch ne leur a rien fait. Les autres disent avoir ressenti au contraire une nette amélioration de leur sommeil et quelques-uns une plus grande fluidité de leurs mouvements. C'est le cas de Patrick Lecointre, le vice-amiral qu'on a entendu tout à l'heure.
Très rapidement, on s'est rendu compte que ces patchs vous faisaient dormir merveilleusement. On avait un sommeil réparateur. Mm-hmm. J'ai senti une amélioration, mais saisissante. Avant, je ne pouvais pas parler distinctement. 2 jours après m'être mis à 2 patchs, je parlais distinctement. J'avais retrouvé ma voix.
Ah oui, donc lui, il considère que ça a eu une efficacité.
Oui, et ça m'a d'ailleurs été confirmé par une neurologue. 2 de ses patients atteints de la maladie de Parkinson ont ressenti les mêmes effets sur leur sommeil. Mais elle tient à nuancer ses résultats.
Forcément, quand on dort mieux, on se sent mieux plus globalement. Après, il faut quand même savoir, pour relativiser, que ces protocoles étaient faits ce qu'on appelle d'aveugles. C'est-à-dire que normalement, souvent dans la recherche, en fait, on va comparer un produit à un placebo pour être sûr que le bénéfice ressenti est bien lié au produit et pas juste à ce qu'on appelle l'effet placebo qui est lié en fait au fait qu'on se dit qu'on va avoir un traitement et qu'on va aller mieux. Et donc, on ne peut pas conclure avec certitude que ces patients aient réellement été améliorés par le produit. Quoi.
Ouais, on ne peut en tirer aucune conclusion scientifique. Et ce, d'autant moins d'ailleurs que certains patients, eux, Laetitia, ont vu leur état se dégrader.
Oui, c'est le cas d'une ingénieure de 50 ans atteinte de la maladie de Parkinson. Elle supportait assez bien son traitement avant de participer aux essais. Son neurologue a préféré rester anonyme. Aussi, nous avons fait lire ses propos. Voilà ce qu'il a constaté quand sa patiente est venue le consulter en février 2019.
Quand je la reçois pour la première fois, elle a des rigidités dans les bras et les jambes et des tremblements. Mais avec son traitement Parkinson, elle arrive à travailler. Elle est cadre supérieur à plein temps avec des responsabilités. Elle va en vélo à son travail, elle voyage souvent à l'étranger, elle fait du sport, une vie presque normale. Quand je la revois en juin, aller au travail en vélo est plus difficile, elle a des troubles du sommeil. Je lui dis qu'il faudrait augmenter le traitement, elle l'accepte mal, elle est désespérée et elle ne le fait pas.
Et non seulement la patiente n'augmente pas son traitement, mais elle l'arrête tout net, sur les conseils, dit-elle, du professeur Fourtillon. Quand le neurologue la revoit, 3 mois plus tard, il est très inquiet.
Après un été sans ce traitement clé, elle est dans un état physique catastrophique. Elle ne peut quasiment plus marcher. Elle se casse la figure chez elle alors qu'elle faisait du vélo 6 mois plus tôt. Elle est dans un état d'anxiété majeur. Bien évidemment, elle est en arrêt de travail parce qu'elle met 20 minutes pour s'habiller. Elle n'est plus autonome.
Et ça, on l'attribue à quoi, Laetitia ? Au patch ou au fait d'avoir arrêté le traitement classique ?
Alors apparemment, ce ne serait pas le patch le responsable, mais bien l'arrêt brutal du traitement anti-Parkinson. C'est ce que pense le neurologue Philippe Damier du CHU de Nantes.
Un sevrage complet des traitements anti-Parkinson classiques, s'il n'est pas fait progressivement, surveillé, peut conduire à des complications graves. Avec de la fièvre, avec une aggravation très rapide des symptômes moteurs et qui peut même conduire à l'extrême au décès du patient.
Mais ces patients, le professeur Fourtillon leur a vraiment demandé d'arrêter les traitements qui étaient prescrits par les médecins ?
Oui, si l'on en croit la notice d'utilisation qu'il a envoyée à plusieurs d'entre eux, voici ce qu'on peut y lire.
Désormais, la maladie de Parkinson sera traitée par application d'un patch mixte de l'hormone du sommeil, la valantonine, et de l'hormone de la veille, le 6-méthoxyarmalan. Mais ce traitement ne pourra trouver son efficacité totale qu'après un sevrage complet des traitements actuels qui s'opposent à l'action thérapeutique du patch.
Oui, effectivement, c'est assez clair. Et le plus grave, Laetitia, c'est que certains vont même cacher à leur médecin le fait qu'ils participent à ces essais.
Oui, c'est ce que m'ont confié plusieurs malades. Et c'est aussi ce qu'a fait un des patients de la neurologue qu'on a entendu tout à l'heure.
un des patients, sur le moment, m'a dit qu'il n'était pas censé me le raconter, qu'on leur avait dit de le garder secret, et il m'a donné les documents du professeur Fourtillan qu'il n'était pas censé me donner. Il voulait surtout pas que je fasse quelque chose avant la date à laquelle il devait recevoir les patchs, car il était persuadé que ça allait le guérir, et il voulait surtout pas de ne pas pouvoir bénéficier du patch.
Oui, certains sont donc prêts à tout, dans l'espoir d'une guérison. Et on va s'interrompre un moment là-dessus, mais surtout restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons vous raconter comment toute cette affaire s'est terminée. Ça groove, c'est frais, c'est entraînant. On sent une certaine filiation avec Frank Ocean. C'était Green Eyes, extrait du premier album de la jeune Britannique Arlo Parks.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, vous nous avez raconté comment le professeur Fourtillan a réalisé des essais thérapeutiques sauvages, Laetitia Chérel. Maintenant, expliquez-nous comment les autorités de santé ont finalement été alertées.
Eh bien, début 2019, le professeur Damier, neurologue du CHU de Nantes et alors président du comité scientifique de l'association France Parkinson, ce professeur est alerté par une consoeur, la neurologue qu'on a entendue tout à l'heure. Il contacte l'Agence nationale du médicament, l'ANSM, qui lui confirme que les essais n'ont pas été autorisés. L'ANSM convoque donc le professeur Fourtillan pour avoir des explications et voici ce qu'il lui répond dans un courrier.
Le fonds Josepha, dont je suis président, n'a jamais mis en place un essai clinique. Vous comprendrez aisément qu'après avoir effectué des essais pendant plus de 30 ans, il ne me viendrait pas à l'idée d'effectuer un tel essai clinique en dehors de la réglementation en vigueur.
Nous sommes en train de préparer un dossier en vue de déposer d'ici la fin de l'année une demande d'autorisation auprès de l'ANSM.
Et donc lui considère qu'il n'a rien à se reprocher.
Oui, sauf que l'ANSM déclenche une enquête et 3 mois plus tard, elle interdit les essais et la distribution des patchs. Elle explique pourquoi dans ce communiqué que nous avons fait lire.
Cette expérimentation a été conduite sans l'autorisation de l'ANSM, avec des substances dont la qualité, les effets et la tolérance ne sont pas connus. Un risque pour la santé ne peut être exclu. L'ANSM demande au professeur Jean-Bernard Fourtillant de cesser immédiatement cet essai. Elle a également saisi la justice sur ses pratiques illégales.
Oui, mais sauf que lui, Laetitia, il joue sur les mots. Il réfute les termes d'essais sauvages.
Oui, et c'est aussi ce que dit son collègue, le professeur Joyeux. Il estime alors qu'il n'y a rien d'illégal parce qu'il ne s'agit pas d'un essai, mais de ce qu'il appelle un test concept. Et c'est ce qu'il nous a encore expliqué au téléphone cette semaine.
Ce que je comprenais, c'est qu'il était dans ce que l'on peut appeler aujourd'hui une étude de phase de preuve de concept. Et pour lui, c'était la légalité totale. Et donc, nous étions tous, mes collègues médecins et d'autres, totalement en confiance. Voilà.
Et voilà, sauf que cette notion d'essai de concept, Laetitia, apparemment, elle se discute.
Oui, effectivement, c'est ce que m'a expliqué l'agence du médicament dans ce mail.
La notion de test de concept réalisé chez l'homme avant un essai clinique n'existe pas. La première administration à l'homme d'un médicament ne peut être réalisée que dans le cadre d'un essai clinique dûment approuvé par l'Agence nationale du médicament.
Et c'est pour ça que l'ANSM transmet le dossier au parquet.
Oui, fin septembre 2019, le pôle santé du parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable ou encore pour exercice illégal de la profession de pharmacien.
Et le professeur Fourtillant, lui, il en dit quoi ?
Eh bien, il dit à ses proches qu'il est dans son droit. Mais si l'on en croit Antoine Morel, un journaliste de France 3 Poitou qui a enquêté sur lui, cet épisode est un tournant.
Jean-Bernard Fourtillant se dit « En fait, l'ANSM veut me casser parce que je représente une menace pour ce qu'on va appeler un lobby pharmaceutique mondial. » Et c'est là, en fait, où il y a un changement de stratégie de sa part. Il se dit « Il faut que je me cache, il ne faut plus que je parle à personne. » Et en fait, il s'entoure à ce moment-là de personnes qui sont dans une sphère beaucoup plus complotiste, qui, eux, depuis des années, accusent l'État de vouloir faire des vaccins qui empoisonnent les gens. Vient là-dessus s'ajouter la crise de la Covid-19. Et Jean-Bernard Fourtillant, à ce moment-là, en fait, reçoit beaucoup de soutien de cette sphère complotiste et il se détache petit à petit de ses amis d'antan, je dirais, de la communauté catholique poitevine, des professeurs respectables poitevins. Il y a une scission qui s'opère à ce moment-là.
Ouais, en revanche, vis-à-vis des patients qu'il prétend traiter, il fait comme si tout allait bien.
Oui, ses essais sont interdits, mais rien ne l'arrête. Dans un mail du 8 octobre, c'est-à-dire 3 semaines à peine après la décision de l'ANSM, il lance un nouvel appel aux dons.
Chers amis, les lettres que j'ai envoyées à Madame Buzyn, ministre de la Santé, et à l'Agence nationale du médicament ont calmé la tempête médiatique et retourné les choses à notre avantage. Les patchs seront livrés de façon définitive et chaque mois aux 402 participants de l'essai à partir du 15 octobre prochain. Aussi, je vous demande de verser rapidement les dons au maximum de vos moyens sur le compte du Fonds Josepha, RIB en pièces jointes.
Alors des mails comme celui-ci, bien j'en ai trouvé plusieurs. À chaque fois, le professeur promet que les patchs vont être livrés et les patients continuent à verser des dons dans l'espoir d'en avoir.
Oui, sauf qu'entre-temps, la justice, elle avance.
Oui, le 11 mars 2020, Jean-Bernard Fourtillant est mis en examen. Il a interdiction d'entrer en contact avec ses patients. Pourtant, 4 jours plus tard, le 15 mars, il va leur redemander de l'argent par l'intermédiaire de sa femme. Nous avons fait lire son mail.
Je vous contacte avec ma nouvelle adresse mail que vous devez utiliser dorénavant pour communiquer avec le Fonds Josepha. Le Fonds Josepha a un besoin financier urgent pour les mois de mars et avril seulement. Le Fonds vous demande de faire le maximum selon vos moyens. Vous pouvez effectuer vos dons par virement sur le nouveau compte bancaire du fonds au Crédit Agricole dont le RIB est joint ci-après.
Et dans un autre mail, Marianne Fourtillon estime qu'il lui faut récolter près de 4 millions d'euros.
Ouais, ce qui n'est pas rien, loin de là. Et ensuite, il va se passer, Laetitia, quelque chose d'assez hallucinant.
Oui, alors, en pleine crise de la Covid, le professeur Fourtillon commence à convaincre ses patients qu'il faut qu'ils achètent de l'or.
Chers amis, la pandémie du coronavirus va servir de prétexte aux banques mondiales pour opérer une réinitialisation monétaire en ramenant la valeur des monnaies à l'étalon or. Depuis un an, les banques centrales achètent tout l'or disponible en augmentant la valeur de l'or de 20 à 30 fois. Et elles vont dévaluer discrètement les devises dans le mois qui vient. Achetez le plus tôt possible de l'or physique chez... Si vous voulez, je vous parraine. Mon pseudonyme chez vous est Roti Bolo, signé Jean Bernard.
Voilà, si on veut acheter de l'or grâce à Roti Bolo, on sait désormais comment faire.
Alors vous plaisantez Jacques, mais Jean Bernard Fourtillon va vraiment investir dans l'or, comme il l'explique dans ce mail du 30 avril 2020.
Chers amis, j'ai besoin de votre aide pour régler ces factures, car il n'y a plus d'argent, aussi bien sur mes comptes personnels que sur le compte du Fonds Josepha. J'ai utilisé tous les dons versés au Fonds Josepha à ce jour. J'ai pu acheter 4 kilos d'or. Quand je vendrai cet or, j'injecterai le produit de la vente en compte courant dans le Fonds Josepha, ce qui nous permettra de constituer une trésorerie solide qui nous sera très utile.
Ah oui, donc il a acheté de l'or avec les dons des patients dans l'intention, dit-il, de le revendre en faisant au passage un bénéfice qu'il va remettre dans son fonds, hein, c'est ça qu'on comprend. Et après, qu'est-ce qui se passe ?
Ben après, il va se cacher pendant plusieurs mois. Il ne répondra pas aux convocations des juges qui envoient les forces de l'ordre pour l'arrêter en décembre dernier. Il sera même placé dans un hôpital psychiatrique à la demande d'un médecin dont il sera libéré quelques jours plus tard.
Ouais, mais il n'en a pas terminé pour autant avec la justice. Alors on va préciser qu'il n'a pas répondu à vos demandes d'interview, Laetitia. Maintenant, le professeur Joyeux, lui qui le soutenait au début, hein, on se rappelle, on l'a entendu, comment il justifie aujourd'hui sa présence à ses côtés ?
Alors il continue de dire qu'il n'a jamais organisé les essais et qu'il n'a jamais cofondé le Fonds Josepha avec le professeur Fourtillon et il prend clairement ses distances avec lui.
Nous étions, si vous voulez, soit trompés, soit endormis. Il avait tendance à penser qu'avec sa découverte, on allait guérir un tas de maladies, l'Alzheimer, le Parkinson et tant d'autres. Et là-dessus, j'étais absolument pas d'accord parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc je disais, écoute, sur le sommeil, oui, puisque tu l'as démontré chez l'animal, ça doit être présent chez l'humain, mais après, piano piano, si vous voulez, voilà.
En attendant, le professeur Joyeux est lui aussi mis en examen dans cette affaire. L'instruction se poursuit. On devrait donc, sauf coup de théâtre, se diriger vers un procès. Quant aux patients, certains craignent que cette affaire enterre des recherches qui leur avaient donné de l'espoir. Ils espèrent que d'autres scientifiques les reprendront, mais cette fois-ci en respectant les règles.
Bien, merci Laetitia Chirel pour ce récit assez édifiant. Je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Guillaume Roux. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.